Chapitre 9. Becky au manoir de ses ancêtres. Dès que les époux Crowley furent, comme le page de Marlborough, tout de noir habillés, et qu'ils eurent prévenu Saint Pitt de leur arrivée, le colonel et sa femme montèrent dans cette même diligence qui jadis avait transporté Rebecca et le défunt baronnet lors du premier voyage de notre héroïne à Crowley-la-Reine. 9 années s'étaient écoulées depuis, et Rebecca se rappela cependant, comme s'ils eussent daté de la veille, les événements qui avaient signalé son premier voyage. Les époux Rodin trouvèrent à Madbury un carrosse attelé de 2 chevaux avec un cocher en deuil, le tout envoyé à leur rencontre. « Eh mais, c'est le vieux coffre de famille, » dit Rebecca à Rodin, tout en franchissant le marchepied de la voiture. « Les verres ont déjà fait d'assez fortes entailles au drap. » La voiture, après une course aussi rapide que le permettait la maigreur des chevaux, arriva à la grille du parc. « Le châtelain, à ce qu'il paraît, a jugé à propos de faire des coupes, » dit Rodin en jetant un coup d'œil autour de lui. Puis il retomba dans son silence ordinaire. Nos deux visiteurs éprouvaient une certaine émotion en se reportant vers leur passé. Rodin se voyait encore simple écolier à Eton. Il se rappelait sa mère, une grande femme sèche et glaciale, la sœur qu'il avait perdue et pour laquelle il nourrissait la plus tendre affection. Puis il songeait au roulé qu'il avait administré autrefois à Pitt. Mais ses préoccupations étaient par-dessus tout pour son petit garçon qu'il avait laissé à Londres. Rebecca, de son côté, repassait les années écoulées, la triste époque de son enfance flétrie dans sa fleur, la manière dont elle était entrée dans la vie par la porte dérobée. Et en même temps se présentait à son esprit Miss Pinkerton, Joe, Amelia. L'allée d'honneur et la terrasse avaient déjà été l'objet d'un nettoyage particulier. Un écusson aux armes de la famille était suspendu au-dessus de la porte principale. 2 grands laquais à la tournure solennelle, à la taille majestueuse et en livrée de deuil, ouvrirent la porte à 2 battants quand la voiture s'arrêta devant les marches du perron. Rodin devint tout rouge, Becky devint toute pâle lorsqu'ils traversèrent l'antichambre en se donnant le bras. Mrs. Rodin pressa légèrement la main de son mari en entrant dans le salon boisé où Sir Pitt et sa femme attendaient leurs hôtes. Sir Pitt et Lady Jane étaient vêtus de noir et Lady Southdown avait sur la tête une espèce d'échafaudage où le jet se mêlait aux plumes. Rien ne ressemblait plus à un panache de corbillard. C'étaient les mêmes ondulations au moindre mouvement de sa seigneurie. Sir Pitt avait bien jugé de l'importance qu'il fallait attacher à ses menaces de départ. Lady Southdown était demeurée au château, mais elle se renfermait dans le silence le plus absolu lorsqu'elle se trouvait en face du couple rebelle. Les 2 nouveaux arrivés ne se tourmentèrent pas autrement de cette froideur affectée. La douairière était bien pour eux l'un des moindres de leurs soucis. Ce qui les préoccupait beaucoup plus, c'était la réception qu'allait leur faire le maître et la maîtresse du logis. Pitt, avec une figure quelque peu émue, s'avança vers son frère et lui serra la main. Il fit même politesse à Rebecca et la gratifia en outre d'un profond salut. Lady Jane, prenant les 2 mains de sa belle-sœur, l'embrassa très tendrement et ses caresses firent presque venir des larmes aux yeux de notre aventurière. Marque de sensibilité d'autant plus précieuse qu'elle était plus rare chez elle. Cet accueil cordial et ouvert avait été au cœur de Becky. Quant à Rodin, encouragé par ces témoignages d'affection de la part de sa belle-sœur, il frisa sa moustache et s'octroya la permission d'embrasser Lady Jane, ce qui fit singulièrement rougir cette timide jeune femme. Lady Jane est une petite femme diablement gentille. Telle fut l'opinion qu'il exprima sur elle en se retrouvant seul avec sa femme. Pitt a pris trop d'embonpoint, mais au moins il fait crânement les choses. C'est que ses moyens le lui permettent, fit Rebecca, se rangeant à l'avis de son mari. Quant à la belle-mère, on dirait une marchande de vulnéraires. Vos sœurs sont maintenant assez belles femmes. Ces jeunes demoiselles avaient quitté la pension pour assister au convoi de leur père. Sir Pitt avait pensé que pour l'honneur du château et de sa dignité personnelle, il devait faire paraître à cette cérémonie le plus grand nombre possible de personnes en habit de deuil. Tous les gens de la maison, toutes les vieilles femmes de l'hospice, auxquelles le défunt de son vivant avait cherché toute espèce de querelle au sujet des rentes qu'il leur payait, la famille du vicaire, tous ceux qui enfin dépendaient de quelque manière du château ou de la cure, furent obligés de prendre le costume de deuil. Il y avait en outre les hommes des pompes funèbres, au nombre d'une vingtaine au moins, portant des branches de cyprès et des brassards de soie noire, ce qui donnait un coup d'œil satisfaisant à tout l'ensemble du cortège. Mais ce ne sont là que des comparses qui, à ce titre, ne doivent point tenir dans notre drame une plus large place. Avec ses belles-sœurs, Rebecca n'eut point l'air d'oublier qu'elle avait été leur gouvernante. Après le leur avoir rappelé, elle leur demanda, de son plus grand sérieux, où elles en étaient de leurs études, les assura de son attachement passé et futur. À l'entendre, on aurait pu croire, en vérité, que depuis leur séparation, Rebecca n'avait fait autre chose que de penser à elle. Ce fut là du moins ce dont Lady Crowley resta bien persuadée, ainsi que ses jeunes belles-sœurs. « C'est à peine si elle est changée, » disait Miss Rosalind à Miss Violette, tandis que ces demoiselles s'apprêtaient pour le dîner. « La couleur fauve de ses cheveux lui sied à ravir, » répliquait l'autre sœur. Ils étaient bien plus clairs que cela autrefois, et je la soupçonne de les avoir teints, reprit Miss Rosalind. Elle a aussi beaucoup engraissé, ce qui ne la dépare nullement, continua Rosalind, qui avait des dispositions à l'obésité. Au moins, elle ne fait pas la grande dame avec nous, et elle se souvient qu'elle a été notre gouvernante, dit Miss Violette, dans l'opinion de laquelle les gouvernantes ne devaient pas chercher à sortir de leur place. Oubliant que si elle était la petite-fille de Sir Walpole Crowley, elle avait aussi pour grand-père le quincaillier de Madbury, et qu'à la rigueur une enclume aurait fort bien pu figurer dans son écusson. Nos cousines du presbytère ne me feront jamais croire que sa mère a été une danseuse de l'opéra. Nous n'avons pas à regarder à la naissance, répondit Rosalind, avec un esprit dégagé de tout préjugé. Je partage sur ce point l'avis de mon frère, qu'en sa qualité de membre de la famille, elle a droit à nos égards. D'ailleurs, c'est bien à ma tante Bute de parler ainsi. Elle qui veut marier Kate au jeune au père, le fils du marchand de vin. Elle a fait auprès de lui les plus vives instances pour le faire venir au presbytère et le faire entrer dans les ordres. Je ne serais pas étonné de voir partir Lady Southdown. Elle lançait à Mrs. Rawdon des regards furibonds. Pour ma part, j'en serais enchanté. Cela me dispenserait de lire la blanchisseuse de Finchley Common. En achevant ces mots, Violette passa devant un corridor qui conduisait à une pièce où se trouvait une bière placée entre deux gardiens, au milieu d'une chapelle ardente, et les deux jeunes filles rejoignirent dans la salle à manger le reste de la société que la cloche du dîner y avait réunie comme à l'ordinaire. Pendant ce petit dialogue, Lady Jane avait conduit Rebecca aux appartements qu'elle devait occuper et où l'on retrouvait cet ordre et ce confort que l'avènement du nouveau maître avait introduit dans tout le château. Les modestes bagages de Mrs. Rawdon avaient été apportés dans la chambre à coucher. Lady Jane, après avoir aidé sa belle-sœur à ôter son petit chapeau blanc et son manteau, lui demanda en quoi elle pouvait lui être utile. « Ce que je désire par-dessus tout maintenant, lui dit Rebecca, ce serait de voir vos enfants. » Les deux mères échangèrent en même temps un coup d'œil qui résumait tous les mystères de la tendresse maternelle, puis elles sortirent de la pièce en se donnant le bras. Becky s'extasia beaucoup sur la petite Mathilde, qui avait à peine 4 ans et qui était un véritable amour. Elle réserva aussi une part d'admiration pour le petit garçon, qui, âgé de 2 ans au plus, était pâle de couleur, avait les yeux caves, la tête très grosse, et auquel Becky donna un brevet de gentillesse et de beauté pour son âge. « Je voudrais bien que ma mère cessât de lui administrer ses médecines, » fit Lady Jane avec un soupir. « Leur suppression complète serait pour sa santé une excellente chose. » Lady Jane entrait là dans une voie de confidence qui est un sujet intarissable pour les jeunes mères de famille. Ses épanchements intimes contribuèrent singulièrement à cimenter l'amitié des deux jeunes femmes. Au bout d'une demi-heure, elles furent les meilleures amies du monde, et le soir, Lady Jane déclarait à Sir Pitt que sa belle-sœur était la plus charmante et la plus aimable créature du monde. Une fois maîtresse de l'esprit de la fille, l'infatigable petite intrigante combina ses efforts pour s'emparer de celui de la mère. Au premier moment où elle se trouva seule avec sa seigneurie, Rebecca la mit bien vite sur la question des soins à donner aux enfants. Elle lui dit qu'elle n'avait conservé son petit garçon que pour lui avoir administré le calomel à de très fortes doses, alors que les médecins de Paris le condamnaient tous. Elle ajouta qu'elle avait l'honneur de connaître déjà Lady Southdown pour avoir entendu parler d'elle au révérend Lawrence Grills dans la chapelle de Mayfair, où elle allait faire ses dévotions. Ses opinions à ce sujet, donnait-elle à entendre, s'étaient bien modifiées en passant au creuset de l'infortune. Elle témoigna le désir de s'éloigner de plus en plus de la dissipation et de l'erreur au milieu desquelles elle avait vécu pour se régler sur la conduite de personnes pieuses et exemplaires. Les instructions religieuses de M. Crowley avaient fait, ajoutait-elle, une grande impression sur son esprit, et elle s'était sentie très édifiée en lisant La blanchisseuse de Finchley Common. Elle demanda des nouvelles de Lady Emily. Cette femme si supérieure, devenue désormais Lady Emily Cornmuse, et demeurant au Cap avec son mari, qui avait des chances pour voir réussir sa candidature à l'évêché de Caffrery. Enfin, elle acheva de se concilier les bonnes grâces de Lady Southdown en simulant une défaillance et une attaque de nerfs après les funérailles du baronnet et en réclamant le ministère médical de sa seigneurie. Non seulement la douairière vint elle-même en camisole lui apporter la drogue demandée, mais elle y joignit encore un choix de ses brochures favorites et insista beaucoup pour que Mrs. Rodden acceptât ces deux présents. Becky prit les brochures avec empressement et eut l'air de trouver un grand intérêt à les parcourir. Elle soutint même avec la douairière une discussion sur certains points de doctrine, sur les moyens d'arriver au salut de son âme, espérant de cette manière épargner à son corps l'affreuse médecine qui était là toute prête. Mais, après cette digression sur les principes du dogme, l'inexorable douairière déclara qu'elle ne quitterait pas la chambre avant d'avoir vu Becky avaler sa potion. Et la pauvre Becky dut encore remercier son bourreau du regard, sans avoir pu échapper à l'impitoyable comtesse, qui se retira seulement alors en donnant sa bénédiction à sa nouvelle convertie. Mrs. Rodden l'aurait bien dispensé de tant de sollicitude, et elle faisait assez piteuse mine lorsque Rodden, entrant dans la chambre, apprit d'elle ce qui s'était passé. Il éclata de rire au récit moitié tragique, moitié burlesque de cette aventure, que Becky lui fit avec la plus franche gaieté, bien qu'elle eût été victime de la crédulité de Lady Southdown. Lord Steyne et le petit Rodden s'amusèrent beaucoup de cette histoire quand Rodden et sa femme furent de retour à leur maison de Mayfair et que Becky leur répéta la scène que nous venons de raconter. Vêtue de son peignoir de nuit, elle nasillait un sermon du genre le plus sérieux, énumérant les vertus prodigieuses de son spécifique avec une gravité si parfaite qu'on aurait juré voir la comtesse ornée de son nez sonore et musical. La scène de Lady Southdown et de sa médecine noire. Telle était chaque soir la demande générale des habitants de Mayfair. Une fois dans sa vie, la comtesse douairière Southdown avait trouvé le moyen d'être amusante. Sir Pitt se souvenait des marques de déférence et de respect que Rebecca lui avait jadis données. Aussi trouva-t-elle de ce côté les dispositions les plus favorables. Si le mariage du colonel n'était pas en tout point satisfaisant, au moins avait-il eu pour excellent résultat de le dégrossir et de le transformer un peu. Et d'ailleurs, Sir Pitt, pour sa part, n'avait qu'à s'en applaudir. L'habile diplomate s'avouait, avec une joie intérieure, que c'était ce mariage qui avait fait sa fortune. Ce n'était donc pas à lui à y trouver à redire. Les manières confiantes de Rebecca à son égard étaient bien de nature encore à accroître ses bonnes dispositions pour elle. Rebecca redoublait de prévenance pour Sir Pitt. Elle appelait à son aide tout son arsenal de séduction. Sir Pitt, déjà enclin à se complaire dans l'admiration et la glorification de ses talents, était enchanté de voir Rebecca lui épargner la peine d'en découvrir de nouveau. Rebecca réussit bien vite à prouver à sa belle-sœur, par des arguments victorieux, que Mrs. Bute Crowley était l'auteur du mariage contre lequel elle s'était ensuite si énergiquement élevée. C'était une tactique inspirée par l'avarice à Mrs. Bute, qui avait espéré ainsi s'approprier toute la fortune de Miss Crowley et spolier Rodden des libéralités de sa tante. Il avait fallu son imagination perverse pour forger tant de méchants propos sur le compte de la pauvre Becky. Elle a pu réussir à nous plonger dans la gêne, disait Rebecca d'un air de résignation vraiment angélique. Mais comment en vouloir à la femme à qui je dois la perle des maris? Son avarice, d'ailleurs, n'a-t-elle pas été assez punie par la ruine de ses espérances, par la perte des biens auxquels elle attachait un si haut prix? Eh, mon Dieu, chère Lady Jane, continuait-elle sur le même ton, que me fait la pauvreté? Dès ma plus tendre enfance, j'ai été élevée à cette rude école, et ce m'est une large compensation à la gêne où je me trouve de voir que l'argent de la pauvre Miss Crawley va servir à rétablir dans son antique splendeur la noble famille dont je suis fier d'être membre. Nul doute que Sir Pitt ne fasse de cet argent un bien meilleur usage que s'il eût été entre les mains de Rodon. Toutes ces paroles étaient scrupuleusement reportées à Sir Pitt par sa trop confiante épouse et ajoutaient encore à l'impression favorable qu'il avait conçue de Rebecca. Pour en donner une idée, nous dirons que, le troisième jour après la réunion de la famille pour la triste cérémonie, Sir Pitt Crawley, tout en découpant une volaille, adressa les paroles suivantes à Mrs. Rodan. « Rebecca, vous offrirai-je cette aile ?» Il n'en fallut pas davantage pour faire passer un éclair de joie dans les yeux de la petite femme. Tandis que Rebecca en venait ainsi à ses fins, que Pitt Crawley prenait les dispositions nécessaires pour la célébration des funérailles, afin qu'elles fussent en harmonie avec ses vues de grandeur et d'ambition, que Lady Jane s'occupait des enfants, dans la limite du moins où sa mère l'en laissait libre, que le soleil se levait et se couchait suivant son habitude, et que la cloche du château tintait ni plus ni moins à l'heure du dîner et de la prière, le corps du seigneur défunt de Crawley la reine gisait étendu sur un lit de parade dans la pièce qu'il avait occupée de son vivant. Auprès de ses dépouilles mortelles se tenaient des mercenaires que l'on payait pour ce service. Mais du reste, nulle plainte, nul regret, excepté de la part de la malheureuse qui avait espéré longtemps se voir enfin l'épouse et la veuve de Sir Pitt et qui avait été contrainte de fuir honteusement du château où, la veille encore, elle régnait en souveraine. Avec un vieux chien d'arrêt pour lequel le vieux baronnet, dans la dernière période de son existence et jusqu'au milieu de son affaiblissement intellectuel, avait conservé une affection marquée, elle était le seul être à qui la mort du maître eût causé un chagrin réel. Aussi devons-nous ajouter que, pendant sa vie, le baronnet s'était fort peu occupé du soin de se faire regretter après sa mort. Il fut oublié, comme cela arrive par ceux-mêmes dont la vie a été la mieux remplie. Seulement le fut-il peut-être encore quelques jours plus tôt. On peut suivre, pour s'édifier et s'instruire, ce cercueil qui se rend à la sépulture de famille. Contempler ce cortège si recueilli et si rigoureusement vêtu de noir, toute la famille du défunt entassée dans les voitures de deuil, ses mouchoirs déployés pour essuyer des larmes qui ne couleront jamais, l'entrepreneur des pompes funèbres qui s'agite et se démène avec ses hommes pour gagner son argent en conscience, les tenanciers faisant au nouveau seigneur leurs compliments de condoléance d'un ton lamentable et contrit, les voitures de tous les hobereaux du voisinage marchant en file, au petit pas, et du reste parfaitement vide, le ministre prononçant la formule sacramentelle, le très cher frère que nous venons de perdre, etc. Enfin, tout l'étalage de vanité réservé pour ce jour suprême, depuis les housses de velours couvertes de larmes d'argent, jusqu'à la pierre qui couvre la tombe et où l'on ne grave jamais que des mensonges. Le vicaire de Bute, sortant tout frais et moulu de l'université d'Oxford, composa, en collaboration avec Saint Pitt, une épitaphe latine de circonstance qui fut gravée sur la pierre tumulaire. Ce jeune vicaire prêcha en outre un sermon remarquable où il exhortait les vivants à savoir réprimer leurs chagrins et les avertissait, avec tous les ménagements possibles, de se préparer, quand leur tour viendrait, à franchir le seuil de ces portes terribles et mystérieuses qui venaient de se refermer sur l'homme si regrettable qu'ils avaient tant aimé. La cérémonie finie, les fermiers remontèrent sur leurs chevaux pour rentrer à leur ferme. Les voitures des seigneurs voisins s'en allèrent comme elles étaient venues, et les hommes des pompes funèbres, après avoir ramassé leurs tentures, leurs velours, leurs panaches et tout l'attirail mortuaire, grimpèrent sur le char d'apparat et repartirent pour Southampton. Chacune de ces figures contristées reprit son expression naturelle dès que les chevaux eurent franchi la grille du parc et, sur la route, on put voir, à la porte de plus d'un cabaret, ces sombres escouades rangées en cercle autour d'un pot de bière. Voilà tout ce qui signala le départ de Sir Pitt du château, où il avait été le maître pendant plus de 60 ans. Le gibier était fort abondant dans les bois de Crawley, et l'on sait que la chasse à la perdrix est un délassement fort goûté de tout gentilhomme anglais qui a des prétentions politiques. Aussi, dès que les premiers transports de la douleur de Sir Pitt furent passés, on le vit sortir avec un chapeau blanc garni d'un crêpe afin de faire diversion aux idées noires qui l'assiégeaient. Il voyait avec une joie secrète et un orgueil intérieur ces champs qui désormais lui appartenaient. Quelquefois, avec un air de charmante bonhomie, il faisait sa tournée en compagnie de Rodden et de son état-major de piqueur. Les revenus et les immeubles de Pitt produisaient une grande impression sur l'esprit de son frère. Notre pauvre colonel à la bourse plate prit le rôle de complaisant et de flatteur du chef de la maison et oublia son ancien mépris pour M. Pitt. Rodden prêtait une oreille attentive et complaisante aux projets de plantation et de défrichement que lui communiquait son aîné. De temps à autre, il hasardait un conseil sur la manière de disposer l'étable et l'écurie. Il alla lui-même à Madbury pour acheter une jument à Lady Jane et s'offrit ensuite pour la dresser. L'indomptable dragon d'autrefois était maintenant façonné au frein et se montrait le cadet le plus traitable. Il recevait souvent des nouvelles de Miss Briggs, restée à Londres, avec le petit Rodden. Nous citerons ici une des épîtres de l'enfant, d'après laquelle on pourra se faire une idée des autres. « Je vais bien. J'espère que vous allez bien, et maman aussi. Le poney va bien. Gray me met sur son dos et me conduit dans le parc. Je commence à galoper. J'ai rencontré le petit garçon qui était monté derrière moi. Il a crié en galopant, et moi, je ne crie pas. » Rodden lisait ses lettres à son frère et à Lady Jane, qui les trouvait charmantes. Le baronnet promit de se charger de l'éducation de son neveu, tandis que son excellente tante donnait une banque-note à Rebecca pour acheter un joujou au petit bonhomme. Les jours s'écoulaient ainsi au milieu de ces distractions et de ces plaisirs que procure la vie de château. Les jeunes sœurs de Sir Pitt recevaient chaque matin de Rebecca une leçon de piano. Après le déjeuner, on mettait des sabots et on allait se promener dans le parc et dans le verger jusqu'au village voisin, où l'on faisait aux pauvres gens une ample distribution des drogues et des médicaments de Lady Southdown. Lady Southdown ne bougeait plus sans Rebecca, qui prenait place à côté d'elle au fond de la voiture, et l'écoutait de l'air du plus profond recueillement. Le soir, Becky exécutait devant la famille assemblée des morceaux de Handel et de Haydn, ou travaillait à une immense tapisserie. À la voir, on eût dit qu'elle n'avait jamais connu d'autre manière de vivre, et qu'elle devait continuer de la sorte jusqu'au jour où la mort viendrait l'enlever, dans une vieillesse avancée, à une famille nombreuse et inconsolable. Les soucis, les intrigues, les expédients, la pauvreté, les créanciers semblaient ne plus l'attendre de l'autre côté des murs du parc. Elle paraissait ne devoir plus échanger les délices de ce séjour contre une vie plus réelle de luttes et de combats. Il n'est pas bien difficile de faire la grande dame dans un château, pensait Rebecca en elle-même. Je me chargerais très bien de ce rôle si l'on voulait m'assurer 5 000 livres sterling de revenus. Ce n'est pas bien fatigant d'aller donner un coup d'œil aux enfants et de compter les abricots sur les espaliers. Au besoin même, j'irai jusqu'à ôter les feuilles mortes des géraniums, jusqu'à demander aux vieilles femmes comment vont leurs rhumatismes et faire distribuer des bouillons aux pauvres. C'est là un métier dont je m'accommoderai fort bien, moyennant 5 000 livres sterling de rente. On me verrait aussi bien qu'une autre me rendre en voiture chez des voisins où je serais invité à dîner et suivre les modes de l'année précédente. Je paraîtrais avec avantage à l'église, dans le banc seigneurial, ou bien, mon voile baissé et dans l'embrasure de la boiserie, j'apprendrais à dormir sans en rien laisser voir. Tout cela s'acquiert par l'usage. Avec de l'argent, on paye ses dettes. Avec de l'argent, on a le droit de faire les fiers et de nous mépriser, nous autres pauvres diables, parce que nous n'avons pas le sou. Ils s'imaginent avoir fait acte de bien grande générosité pour une banque-note donnée pompeusement à notre fils, et quant à nous qui n'en avons pas, nous ne sommes pas bons à jeter aux chiens. C'est ainsi que Becky se consolait des injustices du sort en établissant à sa manière la balance du bien et du mal. Ses bois, ses prairies, ses charmilles, ses étangs, ses jardins, ses salles du vieux manoir qu'elle revoyait après une absence de 7 ans, étaient l'objet de ses visites les plus curieuses. Par rapport au temps où elle se trouvait, c'était là l'époque de sa jeunesse. Car autrement, où avait-elle connu ce temps si doux et si pur de la jeunesse? En se rappelant les pensées, les sentiments qu'elle avait eus alors, elle les rapprochait de ceux qu'elle avait maintenant et qu'elle devait au frottement du monde depuis qu'elle avait vécu dans la société, qu'elle s'était élevée au-dessus de l'humble condition à laquelle le sort semblait l'avoir condamnée. « C'est à ma petite cervelle, se disait tout bas Becky, que je dois d'en être venu où je suis. » Du reste, pour rendre justice à l'humanité, il faut avouer qu'elle est bien bête. S'il m'en prenait envie, je ne pourrais maintenant me mêler à cette société que je fréquentais jadis dans l'atelier de mon père. Adieu, pauvres artistes, avec vos blagues à tabac et vos pipes, je ne puis plus maintenant recevoir que des lords tout chamarrés de crachats et de décorations. J'ai pour mari un gentilhomme, la fille d'un comte pour belle-sœur, et l'on me traite à ce titre avec toute espèce de considération dans la même maison où, quelques années auparavant, j'étais tout juste un peu plus qu'une servante. Mais, en vérité, ma condition présente est-elle si fort préférable à celle de la fille du pauvre peintre qui, par ses câlineries, arrachait de l'épicier du coin un peu de cassonade et de thé? J'aurais épousé le jeune peintre auquel j'avais tourné la tête, que je ne vois guère en quoi je serais plus pauvre que je ne suis maintenant. Ah, si cela se pouvait, je serais toute prête à troquer ma condition et ma parenté contre une bonne petite rente en 3%. C'est ainsi que Becky commençait à se pénétrer de la vanité des choses humaines et cherchait des biens plus positifs et plus solides que tout le clinquant qui les couvre. Peut-être ces méditations l'eussent-elles conduite à reconnaître que l'on peut aussi bien arriver au bonheur par l'observation fidèle de la vertu, par l'accomplissement courageux de son devoir, que par le sentier détourné dans lequel elle se fourvoyait. Mais dès que ses pensées s'élevaient dans l'esprit de Becky, elle avait hâte de s'y soustraire, avec non moins d'empressement que les demoiselles de Crolay-la-Reine en mettaient à éviter la pièce où reposaient les dépouilles mortelles de leur père. On serait, en vérité, tenté de croire que le remords est, de tous les sentiments humains, le plus facile à assoupir lorsque parfois il se réveille. Ce qui nous préoccupe le plus, en effet, n'est point le regret d'avoir mal fait, mais la crainte d'être trouvé en faute et d'avoir à encourir ou la honte ou le châtiment. Pendant son séjour à Crolay-la-Reine, Rebecca réussit, par ses manœuvres et ses intrigues, à se faire des amis de tous ceux qui la voyaient. Lady Jane et son mari lui firent les plus pathétiques adieux. On se quitta en se promettant de se revoir bientôt à l'hôtel de Great Gaunt Street, dès que les réparations en seraient achevées. Lady Southdown fit un paquet de drogue à l'intention de Rebecca et lui remit une lettre pour le révérend Lawrence Grills. Pitt reconduisit ses deux hôtes jusqu'à Mudbury dans sa voiture à 4 chevaux, après avoir à l'avance expédié leur bagage dans une charrette avec renfort de gibier. « C'est un bonheur pour vous d'aller retrouver votre charmant petit garçon, » dit Lady Crawley à sa belle-sœur au moment de la séparation. « Un très grand bonheur, » dit Rebecca en levant au ciel ses petits yeux verts. Et, en effet, elle se trouvait fort heureuse de quitter ce château, dont elle ne s'éloignait pourtant pas sans un certain regret. On mourait d'ennui à Crolay-la-Reine, mais l'air y était plus pur que celui que l'on respirait à Londres. Les personnages qui l'habitaient étaient on ne peut plus monotones, mais ils témoignaient à leurs visiteurs toutes les prévenances dont ils étaient capables. Il n'y a rien de plus facile que d'être aimable lorsqu'on a du 3%, se disait Rebecca, non sans quelque apparence de vérité. Les réverbères de Londres illuminaient les rues de leur rougeâtre clarté lorsque la diligence entra dans Piccadilly. Briggs avait allumé un feu splendide pour fêter le retour de Rodin et de sa femme, et le petit garçon était resté sur pied pour embrasser le soir même son père et sa mère. Chapitre 10. Où l'on revient à la famille Osborne. Voici bien longtemps que nous n'avons aucune nouvelle de notre respectable ami, M. Osborne, de Russell Square. depuis que nous l'avons quitté, les événements qu'il avait traversés n'étaient point de nature à adoucir son caractère. Tout, au contraire, semblait désormais aller à l'encontre de ses souhaits. La moindre résistance avait toujours exaspéré ce vieillard, et l'âge, la goutte, l'abandon, la ruine de ses espérances ne firent qu'augmenter chez lui cette disposition et aigrir son humeur. Ses cheveux noirs et épais blanchirent rapidement après la mort de son fils, sa figure se couperosa. Sa main tremblante pouvait à peine porter jusqu'à sa bouche son verre de Porto. Ce bureau était devenu un enfer pour ses commis, et le séjour de sa maison n'était guère plus tolérable. Rebecca, qui priait le ciel avec tant de ferveur de lui envoyer des rentes, n'aurait point à coup sûr échangé sa pauvreté et les hasards de sa vie d'expédient contre l'argent d'Osborne, à la condition de prendre aussi ses tortures. Ce vieux grondeur avait demandé pour lui la main de Miss Schwartz et avait essuyé un humiliant refus de la part des tuteurs de la jeune demoiselle, qui avait fini par la marier au jeune rejeton d'une noble famille écossaise. Le vieil Osborne aurait consenti à épouser la femme de la plus basse extraction, pourvu qu'il pût ensuite faire passer sur elle ses colères. Mais comme il ne trouvait personne pour accepter ce rôle peu enviable, il se mit à persécuter la fille qui restait chez lui faute d'avoir trouvé un mari. Sa victime avait un splendide équipage, de magnifiques chevaux, occupait la place d'honneur à une table couverte de vaisselle plate. Elle pouvait puiser à pleine main dans la caisse, avait un grand laquais pour l'escorter quand elle sortait, jouissait d'un crédit illimité chez tous les premiers fournisseurs qui la suivaient jusqu'à la porte de leurs salutations et de leurs politesses les plus empressées. En un mot, elle était entourée de tous les hommages dont on accable une riche héritière, et avec tout cela, il n'y avait point de vie plus triste que la sienne. Frédéric Bullock, de la maison Halker, Bullock & Company, avait fini par épouser Mariah Osborne, non sans avoir préalablement fait à son beau-père des chicaneries et des objections sans nombre au sujet de la dot. Puisque George était mort et rayé du testament, Frédéric ne voulait plus prendre sa bien-aimée si le père de Mariah n'assurait à sa fille la propriété de la moitié de sa fortune. Et les retards qui furent apportés au mariage provenaient, comme il le disait, de ce qu'il ne voulait pas se laisser faire au même. À cette argumentation, Osborne répondait que Frédéric avait consenti à prendre sa fille pour 20 000 livres sterling et qu'il était bien résolu à ne pas lâcher un rouge patard de plus. Tout ce qu'il pouvait ajouter, c'était sa bénédiction. Si cela ne suffisait pas à Frédéric, il n'avait qu'à s'en aller au diable. Frédéric, qui s'était bercé des plus flatteuses espérances au moment où George avait été déshérité, accusait le vieux marchand de fraude et de mauvaise foi. Il songea un instant à envoyer promener toute l'affaire. Osborne retira ses capitaux de la maison Halker et Bullock et alla un jour à la bourse, une cravache à la main, jurant qu'il voulait couper en deux la figure d'un certain drôle qu'il saurait bien trouver. Cette rupture, du reste, ne fut que passagère. Le père de Frédéric et ses amis lui conseillèrent de prendre Mariah et de se contenter de ses 20 000 livres sterling, dont la moitié était payée comptant et le reste devait être touché à la mort de M. Osborne, avec une chance éventuelle de partage pour le surplus. Frédéric se résigna en conséquence à mettre les pouces, comme il disait élégamment. M. Osborne rechigna d'abord, puis consentit enfin, car Halker et Bullock tenaient une place élevée dans l'aristocratie financière et avaient des relations avec les plus gros bonnets de la banque. Quelle satisfaction de pouvoir dire « Mon gendre est de la maison Halker, Bullock et compagnie. » En présence de telles considérations, la célébration du mariage fut décidée. Les jeunes époux eurent un hôtel non loin de Berkeley Square et une petite villa à Roehampton, rendez-vous champêtre de presque toute la finance. Auprès des femmes de sa famille, Frédéric passait pour avoir fait une mésalliance. Ces dames oubliaient que leur grand-père sortait de l'hospice des enfants trouvés. Leur mari, il est vrai, appartenait à quelques-unes des plus nobles familles de l'Angleterre. Mariah comprit que le soin de sa dignité et les noms qui figuraient sur la liste de ses visites lui imposaient l'obligation de faire oublier autant que possible la bassesse de son extraction. Elle résolut en conséquence de voir son père et sa sœur le moins possible. Elle avait toutefois trop de bon sens pour songer à mettre de côté ce vieillard dont elle pouvait encore espérer une 20aine de 1 000 livres sterling. Frédéric Bullock, d'ailleurs, ne l'aurait point souffert. Mais, avec ses bonnes intentions, elle n'avait pas encore assez d'usage et de pratique pour savoir bien dissimuler. Elle n'invitait son père et sa sœur qu'à ses petites soirées et les recevait avec une extrême froideur. Se montrait fort rarement à Russell Square, priait son père de quitter ce quartier où l'on ne voyait que des gens du commun. Et par là se faisait un tort énorme, malgré les efforts de Frédéric Bullock, à réparer le mal par sa diplomatie. Ces puériles et ridicules niaiseries finissaient par compromettre gravement les droits de sa femme à la succession. Voilà Mariah devenue trop grande dame pour daigner se montrer à Russell Square, disait le vieillard en revenant un soir avec sa fille de chez Mrs. Frédéric Bullock, où ils avaient dîné tous deux. Elle invite son père et sa sœur à venir manger les restes de ces grands galas, car le diable m'emporte si ces plats n'en étaient pas à la seconde apparition. Et puis elle nous relèguera avec les gens de la cité ou quelques gratte-papiers, en réservant les comtes, les lords et les ladies et toute sa clique aristocratique pour une meilleure occasion. Avec cela qu'elle est belle, son aristocratie. Tas de courtisans, de parasites, de picassiettes que tous ces gens-là. Allons, Jack, un coup de fouet aux chevaux. Nous devrions déjà être rentrés à Russell Square. Puis il se rejeta brusquement dans le fond de la voiture avec un ricanement convulsif. Lorsque Mrs. Frédéric accoucha de son premier enfant, Frédéric Auguste Howard Stanley Devereux Bullock, le vieux Osborne fut prié d'assister au baptême et d'être le parrain du nouveau-né. Mais il se contenta d'envoyer une timbale en or pour l'enfant et 20 guinées pour la nourrice. Je voudrais bien savoir si un de leurs grands seigneurs en a jamais autant donné, se disait-il à part lui. Il refusa du reste d'assister à la cérémonie. Ce magnifique cadeau fit très grand plaisir au Bullock. Mariah en conclut aussitôt que son père avait un faible pour elle, et Frédéric entrevit déjà un splendide avenir pour son jeune héritier. On peut difficilement se faire une idée des souffrances endurées par Miss Osborne lorsque, dans sa solitude de Russell Square, elle voyait dans le journal le nom de sa sœur cité parmi les élégantes du jour. La description de la toilette qu'elle portait pour sa présentation à la cour par Lady Frederica Bullock. Hélas, en comparaison, la vie de Jane s'écoulait bien triste et bien maussade. Elle ne connaissait ses jouissances de l'amour-propre et de l'orgueil que pour en apprécier la privation. Dans l'hiver, elle avait à se lever dès le matin pour préparer le déjeuner du vieillard grondeur et bourru, qui aurait mis la maison sans dessus-dessous si son thé n'avait pas été prêt pour 8h30. À 9h30, son tyran se levait et partait pour la cité. Le temps qui s'écoulait alors jusqu'au dîner se passait pour elle à inspecter la cuisine, à semoncer les domestiques, à faire sa promenade en voiture, ses courses chez les fournisseurs, qui ne savaient lui témoigner assez d'égards. Elle profitait aussi de ses loisirs pour mettre ses cartes et celles de son père chez leurs respectables et ennuyeux amis de la cité, pour rester dans le salon à attendre les visites, pour confectionner une grande pièce de tapisserie au coin du feu. Quand, par hasard, relevant la couverture en cuir de son vieux piano, elle en tirait des notes mal assurées, les échos troublés de la maison lui renvoyaient des modulations plaintives qui semblaient répandre autour d'elle une tristesse plus grande encore. Le portrait de George avait disparu. Il avait été monté au grenier dans une salle de débarras. Le père et la fille conservaient bien comme un secret sentiment du fils et du frère qu'ils avaient perdu. Mais ce souvenir venait machinalement à leurs pensées. Jamais on ne prononçait le nom de cet être jadis si cher à leurs affections. À 5h, M. Osborne rentrait pour le dîner. Il prenait ce repas silencieusement, en tête à tête avec sa fille. Il avait le plus souvent l'air morne et abattu, excepté quand il lui arrivait de tempêter et jurer contre le cuisinier, si par hasard ses ragoûts et ses sauces ne lui plaisaient pas. Deux fois par mois, Osborne recevait des amis de son âge et de sa condition, et aussi peu divertissants que lui. Ses invités rendaient à leur tour à M. Osborne des dîners non moins somptueux et non moins ennuyeux que les siens. Après avoir suffisamment dégusté le porto et le xérès, on allait cérémonieusement faire une partie de whist, et à 10h30, chacun partait dans sa voiture. Au milieu de cette morne existence, un secret planait sur la vie de Jane, secret qui avait développé chez son père cette humeur morose et farouche dont le germe se trouvait déjà dans son naturel orgueilleux et vain. Miss Watt, la demoiselle de compagnie, aurait pu donner plus d'un détail sur cette affaire. Elle avait pour cousin un artiste, depuis très célèbre comme peintre de portraits, mais qui à ses débuts avait été fort aise d'apprendre à dessiner aux femmes à la mode. Monsieur Smee a oublié depuis longtemps le chemin de Russell Square. Mais en 1818, lorsqu'il avait Miss Osborne pour élève, il voyait avec bonheur s'ouvrir pour lui la porte de cette maison. Smee, autrefois élève de Sharp, artiste débauché, flâneur et malheureux, mais plein d'adresse et de talent, était cousin de Miss Watt, ainsi que nous venons de le dire. Celle-ci le présenta à Miss Osborne, dont la main et le cœur se trouvaient encore en disponibilité après plusieurs petites amourettes qui étaient restées en chemin. Le jeune peintre s'éprit d'une vive passion pour cette jeune demoiselle et tout porte à croire qu'il fut payé de retour. Miss Watt était la confidente de ses amours. Peut-être espérait-elle que son cousin, emportant d'assaut la fille du riche marchand, lui donnerait une part dans la fortune qu'il serait venu à bout de conquérir grâce à elle. Mais la triste réalité vint mettre à néant toutes ces ravissantes illusions. Monsieur Osborne, ayant eu vent de l'affaire, rentra un jour à l'improviste et parut dans la salle de dessin sa canne de bambou à la main. Le maître et l'élève avaient la figure fort rouge et fort animée. Cela déplut à monsieur Osborne, qui jeta le jeune homme à la porte en le menaçant de lui casser sa canne sur le dos si jamais il le trouvait sur son passage. Une demi-heure après, Miss Watt était congédiée, et pour hâter son départ, monsieur Osborne, du haut de l'escalier, déménageait à coups de pied ses malles et ses cartons et menaçait encore du poing le fiacre qui l'emportait. Jane Osborne, à la suite de cette aventure, ne quitta pas sa chambre de plusieurs jours, et depuis lors son père ne lui permit plus les demoiselles de compagnie. Il l'avertit en outre de ne pas compter sur le moindre shilling de sa part si elle se mariait sans son consentement. Il lui fallut donc refouler bien loin les espérances que Cupidon avait soulevées dans son cœur. En conséquence, elle s'était résignée, tant que vivrait son père, au genre de vie que nous venons de décrire, et avait pris son parti de rester vieille fille. Pendant ce temps, sa sœur continuait à avoir chaque année un enfant auquel elle donnait des noms de plus en plus beaux, sans que cette augmentation des petits bouloques contribuât au maintien de l'affection entre les deux sœurs. « Jane et moi vivons dans une sphère tout à fait distincte, » disait Mrs. Bullock, « mais elle n'en est pas moins une sœur pour moi. » Or, il ne faut pas beaucoup de pénétration pour comprendre ce que voulait dire ce « elle n'en est pas moins une sœur pour moi. » Nous avons dit quelques mots de la vie que menaient avec leur père, les demoiselles Dobbin, dans leur belle villa de Denmark Hill, où le petit George Osborne se faisait fête d'aller cueillir des pêches et des raisins. Les demoiselles Dobbin allaient souvent à Brompton voir la chère Amelia et entretenaient des relations de visite avec leur ancienne amie de Russell Square, Mrs. Osborne. C'était sans doute par déférence pour les désirs de leur frère, le major, que ces demoiselles montraient tant d'égards pour Mrs. Osborne. Le major ne désespérait pas de voir quelque jour le vieil Osborne revenir de son entêtement et reconnaître enfin pour son héritier le fils de George. Les demoiselles Dobbin tenaient Miss Osborne au courant des affaires d'Amelia. Miss Jane savait, par elle, tous les détails de l'existence de Mrs. Osborne avec son père et sa mère. De cette manière, elle se trouvait renseignée sur la pauvreté et le dénuement de cette malheureuse famille. Ces demoiselles s'étonnaient en commun que des hommes comme le brave major, comme ce cher capitaine Osborne, eussent pu s'amouracher d'une créature aussi insignifiante, qui du reste n'avait point changé, et était toujours restée une minaudière et une pimbèche. Quant au petit garçon, c'était le plus franc démon qui fût au monde. Il n'est pas une femme dont le cœur ne soit accessible aux grâces aimables de l'enfance. Les humeurs les plus revêches sont toujours prêtes à se dérider en présence de ces petits êtres si charmants et si mutins. Amelia, cédant un jour aux vives instances des demoiselles Dobbin, permit au petit George d'aller passer la journée à Denmark Hill. En l'absence de son fils, elle employa la plus grande partie de son temps à écrire au major Dobbin. Elle le complimenta sur les bonnes nouvelles qu'elle avait apprises à son sujet par l'intermédiaire de ses sœurs, lui envoya ses vœux pour son bonheur et celui de la femme qu'il avait choisie, et le remercia de toutes les preuves d'amitié qu'elle avait reçues de lui dans son malheur. Elle lui donnait aussi des nouvelles particulières du petit Georgie, lui annonçant qu'il était allé passer la journée à Denmark Hill. Elle soulignait beaucoup de passages de la lettre et terminait en signant « Son amie affectionnée, Amelia Osborne ». Par un oubli qui ne lui était pas ordinaire, elle ne le chargeait de rien pour Lady O'Dowd, dont elle désignait la sœur par ses seuls mots soulignés, la fiancée du major, et adressait aussi des vœux et des prières pour son bonheur en mariage. La nouvelle de ce mariage lui permit de secouer la réserve qu'elle avait jusqu'alors observée vis-à-vis du major. Elle saisit avec empressement cette occasion de lui exprimer avec toute la vivacité de la reconnaissance la chaleur de ses sentiments. Et quant à être jalouse de Glorvina, allons donc, Amelia s'en serait voulu à elle-même d'en avoir eu seulement l'idée. Ce soir-là, George revint tout joyeux dans la voiture de Sir William Dobbin, conduite par le vieux cocher de la maison. George avait au cou une jolie chaîne en or, au bout de laquelle pendait une montre. Il raconta à sa mère que c'était une vieille dame, un peu laide, qui la lui avait donnée, tout en le couvrant de ses larmes et de ses baisers. Cette vieille dame ne lui plaisait pas beaucoup. Il aimait encore mieux les raisins. Mais il préférait par-dessus tout sa maman. Un secret mouvement de terreur fit tressaillir Amelia. Cette âme timide frémit sous l'atteinte d'un triste pressentiment en apprenant que son fils avait vu quelqu'un de la famille Osborne. Miss Osborne, car c'était elle, rentra de son côté pour dîner avec son père. Le vieillard avait fait ce jour-là une excellente affaire. Aussi se montrait-il presque de bonne humeur, ce qui contribua encore à lui faire remarquer l'air troublé et attristé de sa fille. « Qu'y a-t-il donc, Miss Osborne ? » daigna-t-il lui demander. Celle-ci éclata alors en sanglots. « Ah, monsieur, lui dit-elle, j'ai vu le petit Georges. Il est beau comme un ange. C'est tout son portrait. » Le vieillard, placé en face d'elle, ne répondit pas, rougit beaucoup et commença à trembler de tous ses membres. Chapitre 11, où le lecteur se trouve dans la nécessité de doubler le cap. Il faut que le lecteur se transporte maintenant avec nous à plusieurs milliers de lieues du pays qui, jusqu'ici, a servi de théâtre aux événements de cette histoire. Nous franchissons les mers et nous nous trouvons dans nos possessions anglaises de l'Inde, à la station militaire de Bundlegunj. C'est là, en effet, que nous devons retrouver nos anciens amis du brave Yem, désormais sous les ordres du colonel Sir Michael O'Dowd. Les années n'avaient pas trop maltraité ce robuste officier. Comme il arrive d'ordinaire pour les hommes doués d'un solide estomac, d'un heureux caractère et d'une quiétude d'esprit que ne sauraient troubler les opérations intellectuelles. Peggy O'Dowd, héritière des Maloneys, est toujours telle que nous l'avons jadis connue. Le même désir d'obliger inspire ses pensées et ses paroles. Son humeur ardente, impérieuse et despotique s'exerce principalement sur son Mick bien-aimé. En un mot, elle est le grenadier des femmes de son régiment. Quant au major, il n'est point encore marié, et ce n'est point la faute de Mrs. O'Dowd, qui a décidé dans sa sagesse que Glorvina serait la femme de notre ami Dobbin et n'a rien négligé pour faire réussir ce mariage. En effet, Glorvina ne répondait-elle pas parfaitement aux prétentions que pouvait élever le major ? N'était-elle pas une jolie fille aux couleurs roses, aux cheveux d'ébène, aux yeux célestes, une amazone aussi capable de mener le cheval que le piano, et possédant en un mot tout ce qui était nécessaire au bonheur de Dobbin ? Sans doute, elle était bien plus faite pour lui convenir que cette pauvre et chétive Amelia, dont il n'avait pas cessé d'être le fervent et fidèle adorateur. Il suffit de voir comme Glorvina défile à la parade dans un salon, disait Mrs. O'Dowd, pour se convaincre que cette pauvre petite Mrs. Osborne n'est pas en état de soutenir la comparaison. Elle a la tournure d'une oie qui boite. Mon cher major, si vous m'en croyez, Glorvina est la femme qu'il vous faut. Vous êtes une espèce de marmot qui avait besoin d'être un peu secoué. Et puis Glorvina descend de l'illustre race des Maloney et des Molloy. Et croyez-moi, ce sont là de nobles et anciennes familles avec lesquelles on doit s'estimer toujours très fier de s'allier. Avant de s'attaquer au major Dobbin, les charmes conquérants de Glorvina s'étaient déjà essayés contre bien d'autres. Elle avait eu des amourettes avec tous les officiers à marier, avec tous les célibataires éligibles. Un madras, un capitaine, puis un nabab, était venu accroître le nombre de ses adorateurs sans qu'aucun d'eux eût aspiré à un plus grand bonheur. Dans les fêtes de la présidence, Glorvina n'avait jamais manqué ni de danseurs ni de fidèles, mais ils s'en étaient tous tenus là et aucun n'avait poussé jusqu'au mariage. Malgré les querelles qui se renouvelaient sans cesse et à tout propos entre Lady O'Dowd et Glorvina et qui 20 fois par jour auraient fait perdre patience à Mick s'il n'avait été un véritable saint de bois, ces deux femmes s'entendaient toujours dès qu'il s'agissait de marier le major Dobbin et elles étaient résolues à ne point le laisser en paix qu'elles n'en fussent venues à leur fin. Glorvina, poussée par ses défaites précédentes au courage du désespoir, soumit Dobbin à un siège en règle. Elle lui chantait sans relâche des ballades irlandaises, prenait son bras pour aller se promener sous les frais ombrages des bosquets de citronniers. Sa voix était si douce, ses gestes si pittoresques, que l'homme le moins sensible n'aurait pu y résister. À chaque instant, elle demandait à Dobbin si le chagrin n'avait pas fané la fleur de ses jeunes années, et elle paraissait toujours prête à verser des larmes au récit des dangers et des expéditions militaires du major. Nous savons déjà que l'honnête garçon s'amusait à jouer de la flûte pour son agrément particulier. Glorvina voulut à toute force qu'il l'accompagnât sur le piano, et Lady O'Dowd se retirait discrètement et sans avoir l'air de rien quand elle voyait les jeunes gens dans le feu de l'exécution. Glorvina exigea que le major l'escortât tous les matins à la promenade, et chacun pouvait assister à leur départ et à leur retour. Glorvina inondait le major de petits billets, lui empruntait ses livres, marquant à grands coups de crayon les passages où la passion s'exprimait avec le plus d'ardeur. Elle se servait de ses chevaux, de ses domestiques, de son argenterie, de son palanquin. Comment ne pas expliquer de pareils faits par quelque secret engagement? Comment les deux sœurs du major, auxquelles il en revenait toujours quelque chose, ne se seraient-elles pas imaginées que leur frère allait incessamment contracter les nœuds de l'hymen? Mais ses ruses et ses manèges ne faisaient rien sur l'impassible Dobbin, qui conservait un sang-froid des plus désolants. Il éclatait de rire si parfois un de ses camarades s'avisait de le railler sur l'attention non équivoque que lui accordait Miss Glorvina. « Vous ne voyez pas, disait-il, que ce qu'elle en fait, c'est uniquement pour s'entretenir la main. Elle s'exerce sur moi, tout comme sur le piano de Mrs. Tozer. Elle prend ce qu'elle rencontre sous sa main, et voilà tout. Je suis trop vieux, trop détraqué pour une aussi jolie femme que Glorvina. » Et il n'en continuait pas moins à se promener à cheval avec elle, à lui copier des romances, à lui transcrire des vers sur des albums et à faire sa partie, le tout avec la plus extrême soumission. Car dans les garnisons de l'Inde, les jeunes officiers n'ont point d'autre occasion de s'occuper lorsqu'ils ne se sentent pas de goût pour la chasse à la bécassine et aux cochons ou pour les autres distractions du jeu, de la pipe ou de la bouteille. Malgré les instances de sa femme et de sa belle-sœur, le colonel O'Dowd se refusa catégoriquement à interroger le major sur ses intentions définitives pour le déterminer à mettre un terme aux lamentables tortures d'une innocente jeune fille. Le vieux soldat déclara très nettement qu'il n'entendait entrer pour rien dans le complot. « Eh, ma foi, disait-il, le major, à son âge, sait ce qu'il doit faire. » S'il avait bien envie de vous avoir pour femme, il saurait bien vous demander. » D'autres fois, il le prenait sur le ton de la plaisanterie et disait que Dobbin, se trouvant encore trop jeune pour être à la tête d'une maison, avait écrit à sa maman une lettre pour lui en demander la permission. Loin de se prêter, du reste, au manège et aux intentions de ces dames, le brave Mick alla un jour jusqu'à avertir confidentiellement le major de prendre garde à lui et de se tenir sur la défensive. « Attention, Dobbin, lui dit-il, attention, mon garçon. Ces femmes-là mitonnent quelques grands coups. J'ai vu ma femme qui tirait d'une malle deux robes fraîchement arrivées d'Europe. L'une des deux, en satin rose, était pour Glorvina. Tout cela, Dobbin, c'est pour vous forcer à vous avouer vaincu, si toutefois les femmes et le satin peuvent avoir raison de vous. » Mais ni la beauté des traits, ni le luxe de la toilette n'étaient capables d'ébranler le major. La pensée d'une seule femme occupait tout l'esprit de l'honnête garçon, et cette femme, nous pouvons le dire, n'était point Miss Glorvina O'Dowd, malgré sa robe de satin rose. C'était la douce et modeste créature, vêtue de noir, qui ne parlait guère que lorsqu'on s'adressait à elle, dont la voix n'avait aucune ressemblance à celle de Glorvina. C'était la douce et tendre mère, assise auprès du berceau de son enfant, et invitant le major par un sourire à contempler avec elle ce cher trésor de sa tendresse. C'était la jeune fille aux joues roses entrant dans le salon de Russell Square avec une chanson sur les lèvres ou suspendue au bras de George et la figure resplendissante d'amour et de bonheur. Cette image ne quittait plus l'honnête major. Elle l'accompagnait partout dans le jour et le suivait dans son sommeil à son chevet. Bien que le major ne fatiguât ni le public ni ses amis des confidences de son amour, et bien qu'il n'en perdît ni le boire ni le manger, ses sentiments du moins n'avaient ni changé ni vieilli, et tandis que ses années s'accroissaient, que l'on pouvait apercevoir quelques fils d'argent au milieu de sa brune et épaisse chevelure, son amour conservait toute la sève et la fraîcheur que gardent au cœur de l'homme les souvenirs d'enfance. Mrs. Osborne, comme nous l'avons dit, avait écrit au major pour le complimenter avec la plus cordiale franchise de son prochain mariage avec Miss O'Dowd. « Votre sœur, lui disait Amelia, a eu la bonté de venir me voir pour m'apprendre l'heureux événement au sujet duquel je vous prie d'accepter mes plus sincères félicitations. Je ne doute pas que la jeune personne à laquelle vous allez unir votre vie ne soit en tout point digne de devenir la femme d'un homme aussi bon et aussi dévoué que vous. Que peut vous offrir une pauvre veuve, sinon les prières et les vœux qu'elle forme du fond de son cœur pour votre prospérité? George embrasse bien son cher parrain. Il espère que vous ne l'oublierez pas. Je lui ai dit que vous alliez prendre de nouveaux engagements avec une personne qui mérite certainement toutes vos affections. Mais bien que de tels engagements soient sans contredit les plus forts, les plus sacrés, et domine tous les autres, je suis assuré cependant que la veuve et l'orphelin dont vous avez été jusqu'ici l'ami et le protecteur continueront à avoir une petite place dans votre cœur. » Toute la lettre était sur le même ton et portait à chaque ligne comme l'empreinte du parfait contentement de celle qu'il avait écrite. Elle arriva par le même bâtiment qui apportait de Londres à Lady O'Dowd son arsenal de toilettes. Dobbin, comme on s'en doute, l'ouvrit de préférence à toutes celles qui lui arrivaient de la capitale de la Grande-Bretagne. Mais elle produisit sur son esprit un si fâcheux effet qu'après cette lecture, il prit en haine et Glorvina et sa robe rose et tout ce qui la touchait de près ou de loin et se mit à pester contre les commérages féminins et contre le beau sexe en général. Ce jour-là, tout lui apparut en noir. À l'inspection, il trouva la chaleur accablante et son service lui sembla une odieuse corvée. En vérité, était-ce bien la besogne d'un homme doué de raison que d'user sa vie à examiner les batteries de fusils et à faire prendre l'alignement à des espèces de bûches? Les causeries de la caserne lui parurent plus fastidieuses que jamais. Après tout, que lui importait à lui, qui arrivait grand train à la quarantaine, le nombre de bécassines tuées par le lieutenant Smith ou les mérites de la jument de l'enseigne Brown? Il se sentait pris de dégoût pour les robustes plaisanteries que l'on faisait à la table des officiers. Il n'était plus d'âge à rire des propos drôlatiques tenus par l'aide chirurgien et les jeunes officiers, bien qu'ils eussent encore le don d'exciter la gaieté du vieil O'Dowd, à la tête chauve et au nez rouge, et que ce vieux militaire les entendit répéter, toujours les mêmes, depuis 30 ans. Obligé à vivre entre les lourdes saillies de la table des officiers et les querelles et les scandales du salon des dames, son existence lui devenait insoutenable, et il ne pouvait y penser sans rougir. « Amelia, se disait-il alors, Amelia, pouvez-vous bien me faire des reproches, à moi qui vous suis toujours resté fidèle? Si seulement vous aviez voulu répondre au sentiment que j'éprouvais pour vous, je ne serais point ici à traîner une misérable existence. Ne trouvez-vous d'autres récompenses pour tant de dévouement et de fidélité que des souhaits et des félicitations sur mon mariage avec cette pimpante Irlandaise? » Ah, le pauvre William se sentait alors bien chagrin et bien triste. Plus que jamais il souffrait des tortures de l'isolement. Il aurait voulu en avoir fini avec la vie, avec les vanités et les déceptions dont elle était semée, tant la lutte lui paraissait désespérée et douloureuse, tant l'horizon se montrait à lui sous de sombres aspects. Sa nuit se passa au milieu des plus cruelles insomnies, ne sachant s'il se déciderait à partir pour l'Angleterre. Fidélité, amour, constance, rien n'avait touché le cœur insensible d'Amélia, et on eût dit qu'elle fermait à dessein les yeux pour ne point voir tant d'amour. « Amélia, s'écriait-il au milieu du silence de la nuit, songez que vous êtes la seule que j'ai aimée, que j'aime encore au monde. Malgré votre cœur de marbre, malgré votre indifférence après les soins que je vous ai donnés dans des temps de douleur et de souffrance, malgré ces sourires que vous aviez sur les lèvres au moment de nos adieux, et qui semblaient me dire que vous ne pensiez déjà plus à moi avant même que je vous eusse quitté. » Ah, sans doute Amélia aurait eu pitié de lui si elle l'avait vu dans le triste état où elle venait de le jeter. Le major crut trouver une consolation, un adoucissement à ses tortures, en relisant toutes les lettres qui lui venaient d'Amélia, depuis ses lettres d'affaires touchant le petit capital qu'elle croyait tenir de son mari, jusqu'au moindre billet d'invitation, au moindre carré de papier sur lequel se trouvait un délié de sa main. Ses lettres étaient toutes empreintes d'une froideur qui ne laissait point de place à l'espérance. S'il se fût trouvé là une douce et aimable créature, capable de lire dans ce noble cœur et de comprendre tout ce qu'il se trouvait de grandeur et de délicatesse dans sa réserve, le prestige qui environnait Amélia se serait peut-être évanoui tout naturellement, et l'amour de Dobbin aurait eu désormais des destinées calmes et paisibles. Mais le major n'avait alors d'autre rapport d'intimité que ceux auxquels s'efforçait de le provoquer la fringante Glorvina, la brillante Irlandaise aux boucles d'ébène. Et, il faut le dire, cette altière beauté songeait bien moins à s'assurer l'amour du major que ses adorations. Elle avait entrepris là une tâche bien difficile et bien ingrate, à en juger d'après les moyens auxquels elle était obligée d'avoir recours pour en venir à ses fins. Peu après l'arrivée des toilettes de Londres, et peut-être en vue de leur faire honneur, Lady Oddard et les femmes des autres officiers du régiment royal donnèrent un bal au régiment de la Compagnie des Indes et aux fonctionnaires civils de la station. Glorvina y parut au milieu des pompes éblouissantes de sa robe de satin rose, de cette robe qui devait frapper le coup décisif. Le major, présent à cette fête, errait à l'aventure dans les salons du bal. Et il n'eut pas même su dire le lendemain quelle était la couleur du satin. Glorvina, la rage au cœur, accepta pour danser les moindres officiers de la garnison, espérant irriter la jalousie de Dobbin. Mais le major n'en parut point jaloux. Il ne témoigna pas même de mauvaise humeur lorsque M. Bangles, capitaine de cavalerie, offrit son bras à Glorvina pour la conduire à la salle du souper. Ce n'étaient ni les manèges de la coquetterie, ni de jolies robes, ni de belles épaules qui pouvaient quelque chose sur la fibre sensible du major, et Glorvina n'avait rien autre chose à offrir. À eux deux, ils donnaient l'exemple de la vanité des choses humaines. Ils désiraient chacun de leur côté ce qu'il ne leur était point donné d'avoir. La désolation et le désespoir de Glorvina se manifestaient par des torrents de larmes. Son affection pour le major, disait-elle en sanglotant, avait été plus vive qu'aucune de celles qu'elle avait ressenties pour les autres. « Ah, ma bonne Peggy, disait-elle à sa belle-sœur, dans leurs moments d'entente et de bonne harmonie. « Ah, ma bonne Peggy, il me brisera le cœur. Toutes mes robes me deviennent trop larges. Je ne serai bientôt plus qu'un squelette. » Tandis que le major prolongeait ainsi le supplice de cette malheureuse, et loin de demander sa main, ne tâchait même pas d'en devenir amoureux, un autre bâtiment arriva d'Europe, d'où il apportait des lettres, parmi lesquelles il s'en trouva une pour cet homme au cœur de granit. Cette lettre portait un timbre plus ancien que celui des missives apportées par le dernier navire, et elle venait de chez lui. Dobbin reconnut aussitôt l'écriture de sa sœur, qui mettait le plus grand soin à entasser dans sa correspondance toutes les plus mauvaises nouvelles, et lui adressait le petit sermon avec une franchise vraiment fraternelle. Aussi son cher William, étant malheureux tout le reste du jour, quand il lui arrivait de lire les épîtres de sa sœur, ne se pressait jamais beaucoup d'en rompre le cachet. Pour cela, il attendait de se sentir en bonne disposition. Il y avait à peine 15 jours qu'il venait d'écrire à sa sœur une lettre de remontrance à propos des absurdes racontages dont elle avait été entretenir Mrs. Osborne, et il avait de plus fait réponse à la mère de George afin de la détromper sur les bruits mensongers qui avaient circulé sur son compte, et l'assurait qu'il n'entrevoyait point, quant à présent, de changement probable dans sa position actuelle. 2 ou 3 jours après l'arrivée de ce second paquet de lettres, le major était allé passer la soirée chez Lady O'Dowd, où il s'était montré fort aimable, et Glorvina s'était persuadée qu'il avait écouté avec plus d'attention qu'à l'ordinaire l'écho du glacier ou l'enfance du ménestrel, et 1 ou 2 autres romances de choix qu'elle réservait spécialement pour lui. En réalité, il n'avait pas plus écouté la belle Glorvina que le hurlement des chacals que l'on entendait grogner dans le voisinage de la maison. Mais comme toujours, la pauvre fille aimait à se bercer d'une illusion qui lui était chère. Le major, après avoir joué une partie d'échecs avec elle, pendant que le chirurgien faisait celle de Mrs. O'Dowd, prit congé de ces dames à son heure ordinaire et regagna son gîte. Sur la table, il trouva la lettre encore intacte de sa sœur, qui renfermait probablement son contingent ordinaire de reproches. Il la prit, et presque honteux de son insouciance, il se disposa à passer 1 heure désagréable en tête-à-tête avec cette chère sœur, qui, à une telle distance, trouvait encore le moyen de lui être parfaitement déplaisante. 1 heure environ s'était déjà écoulée depuis que le major avait quitté la maison du colonel. Maître Mick dormait du sommeil inaltérable du juste, et Glorvina avait déjà caché ses boucles d'ébène dans leur prison de papier brouillard. Lady O'Dowd, elle aussi, avait regagné la chambre nuptiale située au rez-de-chaussée. Tout à coup, la sentinelle qui veillait à la porte de l'officier supérieur vit le major Dobbin accourir hors d'haleine et la figure bouleversée. Il se dirigea vers la maison du colonel et, sans faire attention au planton, s'approcha des fenêtres de la chambre à coucher. « Colonel O'Dowd ! » cria-t-il alors de toute la force de ses poumons. « Grand Dieu, c'est le major !» dit Glorvina, en laissant apercevoir sa tête, qui ressemblait à une grappe de papillotes. « Eh bien, Dob, qu'y a-t-il, mon garçon ?» reprit le colonel, pensant qu'il y avait au moins le feu à la caserne, ou qu'il était arrivé un ordre du quartier général. « Il me faut un congé pour retourner en Angleterre, » reprit Dobbin. « J'y suis rappelé immédiatement pour des affaires de famille très urgentes. »« Juste ciel, qu'est-il arrivé ?» se dit Glorvina, communiquant son tremblement à ses papillotes elles-mêmes. « Il faut que je parte cette nuit, sur le champ, » continua Dobbin. Le colonel se leva et vint échanger quelques paroles avec lui. En arrivant au post-scriptum de la lettre de Miss Dobbin, le major y avait trouvé la nouvelle suivante, seule cause de l'alerte dont nous venons de faire part au lecteur. « J'ai été voir hier notre vieille connaissance, Mrs. Osborne et sa famille. Vous savez dans quelle misérable demeure vivent ces pauvres gens depuis la banqueroute du père. Monsieur Sedley a placé une plaque de cuivre sur la porte de cette méchante habitation et se livre au commerce du charbon. Le petit Georges, votre filleul, est un charmant enfant, quoiqu'il ait de grandes dispositions à l'insolence et à l'entêtement. Nous nous occupons de lui suivant votre désir, et nous l'avons présenté à sa tante Miss Osborne, qui a été enchantée de le voir. Son grand-père, je ne parle point du banqueroutier, mais de M. Osborne, de Russell Square, qui est presque tombé en enfance, semble disposé à se radoucir à l'égard de l'enfant de votre ami, et à oublier les erreurs de la désobéissance du père. Amelia serait assez disposée à lui en faire l'abandon. Elle commence à se consoler de la mort de son mari, et dans peu doit épouser le révérend M. Binet, ministre à Brompton. C'est un pauvre mariage, mais Mrs. Osborne commence à être sur le retour. J'ai déjà aperçu quelques cheveux gris sur sa tête. Quant à son moral, il va infiniment mieux, et votre petit filleul fait le diable à la maison. Ma mère me charge de vous transmettre ses amitiés, auxquelles je joins celles de votre dévouée sœur, Anna Dobbin.